Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table. Binge audio.
Un vent froid, plein de vagues et de tristesse, s'élève et transporte l'âme vers d'autres pensées. Le sommet des arbres se dépouille et se tord.
Pour les Celtes, la mort n'est que le milieu d'une longue vie.
C'est peut-être un des traits caractéristiques de la Bretagne, cette promiscuité avec la mort.
Ô pêcheurs, repentez-vous étant vivants. Car à nous, morts, il n'est plus temps. Priez pour nous, trépassés, car un de ces jours, vous en serez. Soyez en paix.
Au vieux pays de mes pères, épisode 2.
Sur la tombe de Mathieu et de Marianne, devant laquelle je me trouve, comme sur quasiment toutes celles qui l'entourent dans le cimetière de Roscoff, il y a une croix. Une grosse croix en pierre grise. Ici, la religion, elle est partout. Et dans notre histoire, elle joue un rôle essentiel. C'est pas très étonnant vu l'endroit où on se trouve, parce que dans le Léon, qui est cette région qui va en gros de Morlaix jusqu'à la pointe ouest du Finistère, le catholicisme est omniprésent. Là où ça devient très particulier, c'est qu'ici, il se mélange avec une culture mystique. Mathieu, il incarnait ce croisement entre deux spiritualités. D'un côté, le catholicisme, qui est très cadré, et de l'autre, le mysticisme, que la religion, logiquement, aurait dû vouloir éradiquer, ce qu'elle n'a jamais fait. Moi, j'ai toujours ressenti ça ici, et ça m'a toujours fasciné. Un des bouquins préférés en Bretagne, par exemple, c'est « La légende de la mort en Basse-Bretagne » d'Anatole de Bras. Et ça parle autant de morts vivants et de fantômes que d'enfer, de paradis et d'église.
Le poids de l'église, il est évidemment très 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 fort.
Ronan Calves, professeur de celtique, directeur du CRBC à Brest.
Et il s'accompagne alors en effet de rites, de croyances que l'on fait remonter à des temps très anciens. Moi je me rappelle très bien de mon grand-père me disant que lorsqu'il est né, on a trempé sa chemise, je crois que c'était ses langes, dans une fontaine. Si les langes restaient à la surface, il restait en vie, et si elles coulaient, ça voulait dire qu'il allait mourir. Donc c'était des pratiques qui relèvent de la magie, qui relèvent de croyances, mais qui se pratiquait dans une fontaine patronnée par un saint ou par une sainte. Donc l'Église catholique, elle a très clairement fait le choix d'accompagner un certain nombre de rites qui doivent remonter à des temps immémoriaux. Au départ, la revendication bretonne, enfin, ou en tous les cas, l'idée d'un respect des valeurs, d'un respect d'une nature bretonne, elle est très clairement catholique. C'est l'Église catholique qui, en effet, va soutenir une certaine forme de revendication, mais jamais l'Église catholique va pas être séparatiste.
Oui. Hein.
L'idée, c'est la petite patrie dans la grande patrie, ce que va faire la République, d'ailleurs, la Troisième République, hein, c'est la même chose, hein. On vante les mérites de la petite patrie, dans la mesure où elle est dans la grande patrie. Pendant tout le 19e siècle, il y a une volonté de mettre en évidence les valeurs, des valeurs naturelles. Et donc la langue bretonne est aussi une forme de rempart, hein, vis-à-vis des dangers que pourrait représenter le progrès social la République. Par contre, apparaît en effet, après la Première Guerre mondiale, un mouvement catholique plus radical, représenté par l'abbé Jean-Marie Perrotte, qui, en effet, est très revendicatif et qui va avoir des liens assez ténus avec le mouvement politique breton, qui est très majoritairement catholique.
Et il y avait l'abbé Perrotte, et grand-père aurait été franchement pour Perrotte, quoi.
Jean, un des fils de Mathieu, mon grand-père.
Lui, il aimait bien l'abbé Perrotte, alors bon, c'était mal vu, quoi.
Ouais.
Alors donc, à partir de ce moment-là, bon, ben, il lui restait quand même ça derrière la tête.
Ouais.
Et puis, ça ressortait de temps en temps.
Je sais qu'il a été partisan de l'abbé Perrotte.
François, un des petits-fils de Mathieu.
Mais est-ce que c'est parce qu'il était curé? Parce que c'est vrai qu'il y avait cette caution de la religion, quoi, aussi.
Il les connaissait tous, il venait à Roscoff à la maison, au verger.
Perrotte ?
Bien sûr.
Ah oui.
Bernard, un des fils de Mathieu.
Bien sûr. Mais il ne parlait que breton, d'abord, quand ils se rencontraient. Bévet, Breiz, et vous, Breiz et Tao.
Ouais.
C'était... Ouais. On rigolait que...
Ah oui, ils étaient marrants.
Ouais. Ah oui, ben on ne parlait que breton.
Ouais.
On n'était pas dérangé, hein.
Ouais.
Mais qui était l'abbé Jean-Marie Perrotte? Il est surtout connu comme l'un des leaders du mouvement culturel breton d'avant-guerre. Pour les uns, c'est tout simplement un traître qui collaborait avec les Allemands et n'hésitait pas à dénoncer les maquisards à l'occupant. C'est ce qui lui a valu d'être exécuté en 1943 à l'initiative d'un groupe de résistants. Cette exécution provoque l'indignation des partisans de l'abbé Perrotte qui le considèrent, eux, comme un véritable saint et qu'il a été, à tout le moins, victime d'une erreur.
Il devait être excellent bretonnant, il devait être un très bon orateur, charismatique, mais très mal vu par son évêque. Parce que, justement, trop nationaliste ou trop séparatiste, pour l'évêque, Monseigneur Duparc à l'époque... Dans l'équilibre feis, qui veut dire foi, et breis, qui veut dire Bretagne, feis devait toujours l'emporter. Alors que, pour l'abbé Perrotte, peut-être que breis l'emportait avant feis. En tous les cas, il n'y avait pas le même équilibre. Donc feis à breis, c'était la revue qui était animée par l'abbé Perrotte. C'est un journal qui a été créé en 1865, jusqu'en 1885, qui s'est arrêté ensuite et qui a repris au début du siècle et qui a été animé ensuite par Perrotte.
Voilà, il y a un militantisme assez fort, un activisme assez fort.
Sébastien Carnet, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Brest.
Autour d'une personnalité, donc l'abbé Perrotte, qui est très très actif dans les années 20 et les années 30 auprès de la jeunesse. Beaucoup de gens gardent encore un souvenir assez affectueux finalement de cette personne-là, puisque il a permis à un tel de mener une carrière de peintre, un autre de faire des études, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est le curé des années 30. Dans les années 40, ça sera un autre contexte.
C'est oui, parce qu'il va, lui, il va être tué par des résistants.
Voilà, en décembre 43, ce qui n'était finalement pas une grande surprise, parce qu'il avait été déjà menacé à plusieurs reprises. maîtrise. Bon, on lui reproche diverses choses, hein, d'avoir publié dans son journal Face Abraise des articles anti-bolcheviques, d'être en lien avec des gens qui parlent un peu trop, peut-être, qui dénoncent d'autres personnes. Enfin, il est à la croisée de plusieurs feux, quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui était assez... d'après des gens qui l'ont connu, hein, j'invente rien, et même des gens qui l'aimaient beaucoup, disaient que, bon, finalement, il parlait, parlait parfois lui-même trop, ouais. Et parfois avant de réfléchir.
Ouais. Donc,
De ce que je comprends, moi, ce serait donc par la religion, par la spiritualité, qui était super importante dans sa vie, que Mathieu serait entré en contact avec l'autonomisme breton. Moi, on m'a toujours apporté l'image de cet homme installé dans sa cuisine qui lisait en permanence. Et il lisait quoi ? Eh ben, il lisait des revues religieuses en breton où il était certainement question de revendications régionalistes. À cette époque-là, le mouvement breton, il essayait de se fédérer. Et c'est là que l'histoire intime, celle de ma famille, rejoint l'histoire collective parce que le mouvement autonomiste breton, dans sa grande majorité, il a collaboré avec les nazis. Extrait du manifeste du Parti nationaliste breton, paru en 1911.
Nous voulons qu'en ce XXe siècle, après une trop longue période d'une domination brutale de la part de la France et de soumission résignée de la part de la Bretagne, notre attitude ait la valeur d'une protestation irréductible. On nous croit écrasés, annihilés, assimilés, francisés. C'est faux. Il y a encore dans l'âme bretonne quelque chose qui résiste et qui survit, quelque chose qu'on a voulu étouffer et anéantir, mais qui demeure aujourd'hui aussi vivace et robuste qu'au temps de notre indépendance, et cela conscient ou inconscient, c'est le sentiment national.
Au début des années 30, il y a deux courants, on va dire, qui vont structurer le mouvement et se séparer, hein, entre des fédéralistes qui vont s'ancrer à gauche et des nationalistes qui vont davantage s'ancrer vers la droite et notamment vers le nazisme. Alors là, il y a un attrait assez fort, hein, qui apparaît dans 31-32 ce qui se passe en Allemagne, hein, pour la réussite du nazisme. C'est-à-dire que les Allemands ont très vite compris que le mouvement breton n'avait aucune assise locale. Donc on ne pouvait pas en tirer grand-chose, à vrai dire. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était faire subsister, un peu sous perfusion, un micro-mouvement qui serait comme une espèce de petit caillou dans les souliers de Pétain, une espèce de contre-pouvoir potentiel. Et en le maintenant finalement sous perfusion, on pouvait inciter certains de ses membres à vouloir en avoir plus, avoir un salaire, être rétribué en faisant du renseignement. Voilà, c'est ça la politique allemande. En aucun cas, les Allemands ont promis l'indépendance ou quoi que ce soit.
Parce que ça, c'est le mythe qui a perduré après.
Voilà, c'est ce qu'on a raconté pour essayer de dédouaner finalement les Bretons en disant, enfin ces Bretons-là en disant qu'ils auraient été, abusés. Non, pas du tout. Pas du tout. Dès le début, tout le monde a compris qu'il ne se passerait rien.
Extrait du journal L'Heure Bretonne, le journal officiel du Parti National Breton, le 14 novembre 1942.
La radio diffuse depuis ce matin deux messages du Führer. L'un destiné au peuple français, l'autre au maréchal Pétain, le chef de l'État français. Ces messages font part de la décision prise par le chef du Troisième Reich de faire occuper par ses troupes la zone située au-delà de la ligne de démarcation. À l'heure où paraîtront ces lignes, tout le territoire qui demeurait soumis à la juridiction de l'État français sera sous le contrôle des soldats du Reich et de l'Italie. C'est un événement considérable. Le Parti national breton déclare une fois de plus qu'il n'est pas moins sensible à l'entreprise gigantesque des forces européennes coalisées pour éviter la bolchevisation de l'Europe. En affirmant sa foi dans l'ordre nouveau promis aux peuples européens de bonne volonté, le Parti national breton a conscience de servir les intérêts les plus authentiques de la Bretagne et marque sa fidélité aux traditions spirituelles de notre patrie.
Cette collaboration, elle va prendre un tour encore plus concret à la fin de l'année 1943, avec la création d'une formation SS bretonne de sinistre mémoire dans la région, puisqu'elle va se livrer à tout un tas d'actions violentes, des arrestations, de la torture, des exécutions. Cette unité, elle va prendre le nom de l'abbé Perrotte, celui que fréquentait Mathieu, qui venait juste d'être tué. Ça peut paraître étonnant d'ailleurs que des SS qui par nature sont supposés être des païens rendent hommage, comme ça, à un homme d'église. Ce qui est sûr, c'est que ça a contribué à brouiller un peu les frontières entre les différentes branches de l'autonomisme breton et que ça a définitivement entaché l'ensemble du mouvement.
J'ai encore deux, trois questions, après on va... J'essaye toujours dans l'idée de dresser un peu un portrait robot de ce Mathieu que je connaîtrai jamais que par les récits très à distance. J'essaie de comprendre un peu à quoi ressemblait cette jeunesse très catholique, très sensible à la cause bretonne du début du XXe siècle. Lui, il était né en 1894. Donc, c'est quoi cette génération-là de jeunes catholiques du Nord Finistère? T'as une idée, toi, un peu, de à quoi ça ressemblait culturellement, idéologiquement, cette génération-là?
Alors, une génération évidemment plus conservatrice, on dira, plus marquée à droite. Mais voilà, c'est la droite catholique assez, alors voilà, respectueuse de la hiérarchie, de l'autorité, et puis qui... alors je ne sais pas quel était son métier.
Agriculteur,
ouais.
Cultivateur.
D'accord.
Et boulanger après. Enfin, ils avaient les deux, ils avaient une boulangerie à Roscoff.
J'imagine que c'est un peu l'idéal type du un brave garçon qui fait ce qu'on lui dit de faire. Non, c'est pas si simple que ça, mais parce que là on est dans le flou justement. Ouais. Est-ce qu'il était lié à un syndicat, oui ou non, vous voyez, donc ça peut influer aussi sur le type d'engagement auquel il était lié.
Ouais.
Mais c'est justement tout le problème du flou qui entoure ces récits là, parce que finalement le flou permet tout et donc permet énormément d'imagination. Et je mets ça en lien finalement avec l'absence pendant longtemps d'archives, alors qui commencent à sortir aujourd'hui. Les archives publiques sont pour la plupart désormais accessibles sans dérogation. Toutes les archives de l'épuration sont accessibles maintenant. Par contre, les archives familiales restent parfois encore bloquées. Alors ça commence à sortir aujourd'hui. De temps en temps, par chance, on peut tomber sur un petit cahier d'écolier dans lequel des récits sont consignés. Mais lorsqu'il n'y a rien, vraiment, alors c'est les archives publiques, c'est le recoupement avec d'autres récits, avec d'autres témoignages qui peuvent permettre de s'en sortir. Et puis alors, le quand c'est possible, mais c'est pas toujours simple, le travail au sein des familles, réussir à faire parler les gens.
Ben on arrive là aux archives départementales du Finistère.
C'est des places réservées ou quoi ?
Non, pas de problème.
Qu'est-ce qu'on espère trouver aujourd'hui ?
Alors en fait, là, qu'est-ce qu'on va aller voir ? C'est Sébastien Carnet qu'on a interviewé aussi, qui est historien. Et il m'a donné la cote de la liste de épuration. Donc l'épuration, c'est cette période après la guerre où il y a eu beaucoup d'arrestations, d'exécutions et tout ça. De gens qui étaient accusés de collaboration, donc la liste épuration du Finistère, les noms de A à C. Parce qu'en fait, chaque personne qui était arrêtée avait une petite fiche qui était remplie quand il arrivait après son arrestation, où il y avait son nom, machin, d'où il venait, et en gros, qu'est-ce qu'on lui reprochait. Donc on va voir si on retrouve Mathieu. Rosec. Ouais.
Il faudrait juste le numéro.
39-567. C'est les listes de détenus de l'épuration. Ben pour l'instant, juste celle-ci.
D'accord.
En fait, je cherche des infos sur mon arrière-grand-père.
D'accord.
Pas si.
Je ne
trouve pas meilleur. Je suis un peu bouleversé.
Pourquoi ?
J'ai tout trouvé.
Ah, c'est super.
Ouais.
Ça va ?
Ouais. Je suis un peu secoué. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah j'ai tout. Donc d'abord j'ai trouvé sa fiche d'arrestation et j'ai eu son dossier. Tout son dossier. Tout.
Préfecture du Finistère, répression des faits de collaboration. Dossier numéro 1740. Arrêté d'internement du 9 février 1945. 3 mois. Nom, Cabioche. Prénom, Mathieu. Date et lieu de naissance, 15 janvier 1894 à Roscoff. Profession, boulanger-cultivateur. Taille, 1m65, cheveux grisonnants, yeux bleus, nez rectiligne, visage rond, yeux bleus, teint coloré, moustache courte, yeux bleus. Motif, a tenu en public des propos pro-allemands et trafic intense de pain avec les Allemands au détriment de la population.
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.